Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ciselé, le podcast qui part à la découverte de plats aux saveurs insoupçonnées, de produits méconnus et des personnalités qui font vivre les gastronomies africaines. Je suis Basile et pour ce premier épisode, j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands. Est-ce que vous me suivez ? Ciselé, saison 1, épisode 1, cap sur la banane plantain. Communément appelé plantain parce qu'autrefois on désignait le bananier par le mot platane, cette banane qui n'a rien à voir avec sa cousine la banane à dessert répond également au nom de banane farine, banane poingo, banane à cuire ou banane cochon selon les régions du monde. Les premiers plants de banane plantain seraient originaires de Malaisie. Aujourd'hui, elle est cultivée dans les régions tropicales de la planète et représente un aliment de base pour de nombreuses populations en Afrique et en Amérique latine. Elle constitue également une grande source d'énergie puisqu'elle est riche en vitamines A et C et regorge de nombreux minéraux comme le potassium, le magnésium, le zinc et le phosphore. Enfin, elle est particulièrement riche en amidon, ce qui fait qu'il est fortement conseillé de la cuire avant de la consommer, un peu comme une pomme de terre. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la banane plantain, je vous propose que nous allions voir Bachir, qui nous fait l'amitié de nous recevoir et qui a davantage d'éléments à nous apprendre sur ce faux fruit. Bachir, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous accueillir pour ce premier épisode de Ciselé.
Tout le plaisir est pour moi.
Bon, c'est gentil. La première question que j'ai envie de te poser, c'est tu viens d'où, Bachir ?
Alors, moi, je suis originaire du Sénégal et du Cameroun.
D'accord.
Plus précisément, Sénégalais de père,
ouais.
Camerounais de mère.
D'accord.
Wolof de père, Douala de mère.
On est venu te voir aujourd'hui parce qu'on voulait en apprendre plus sur la banane plantain. Comment est-ce qu'on différencie la banane plantain de la banane à dessert que tout le monde connaît ?
L'un est plutôt destiné à la consommation comme un légume, mais non comme un fruit. Voilà, la différence, c'est ça.
Comment je reconnais une banane plantain d'une banane à dessert si je vois les deux à côté, en fait ? Comment je sais celle que je ne dois pas manger crue et celle...
Ah, mais écoute, c'est très très simple. La différence, tu la verras. Parce que, en fait, la banane plantain, dans sa forme initiale, elle est plus charpentée, elle est plus... un peu plus longue, un peu plus grosse, un peu plus... brute, tandis que s'il faut la qualifier comme ça, tandis que la banane fruit, il y a une certaine finesse, elle est un peu allongée, il y a des petites taches, on voit bien les rayures, le jaune est très très beau, tandis que vous voyez.
Tu sais pourquoi est-ce que le terme aloco s'est plus imposé qu'un autre?
Mais parce que je crois que la Côte d'Ivoire en a fait l'un de ses mets les plus importants, l'un de ses mets les plus importants. Et donc, quelque part, en Côte d'Ivoire, le fait de l'appeler aloco, ça s'est un peu institutionnalisé au sein de l'Afrique, de toute l'Afrique. Mais moi, ce que je veux dire chez moi, par exemple, du côté maternel, puisque j'ai une partie Afrique centrale et ma mère étant camerounaise, et Douala, nous, on appelle ça le misolet.
Le missolet.
Oui, et tous les gens savent que, bon, au Cameroun, du côté du littoral, du côté de Douala, du côté de Déa, de Bassa, de Krébi, on dit, ah, il y a les missolets. Tu veux un peu de missolet? On sait que c'est la banane frite. Mmh. Mais les Ivoiriens ont vraiment, en Côte d'Ivoire, pour eux, la loco, ça s'est institutionnalisé. Même on dit, on va à la locodrome.
C'est vrai, ça, t'as raison, oui. J'avais oublié cette expression-là, la
on
locodrome.
On va à la locodrome. Et là-bas, quand tu vas à la locodrome, c'est pour manger, c'est consommer vrai. De la loco.
Ça, c'est vrai, t'as raison.
Voilà.
Mais bon, est-ce que tu penses que partout en Afrique, toi pour qui le continent n'a plus beaucoup de secrets, quand on vient et qu'on dit à loco, est-ce qu'on se fait comprendre?
Oui, alors là, totalement. Parce que même dans ces pays-là, sur les cartes des restaurateurs, souvent, on met poulet braisé à loco. Mmh. Donc, on comprend vite ce que c'est. On sait que c'est banane frite, c'est les plantains, ce sont les plantains qu'on définit comme ça. Donc, non, c'est vraiment, c'est un plat qui est national, régional et international.
Donc finalement, c'est un peu un succès de l'influence ivoirienne d'avoir réussi à faire de l'aloco un
oui,
terme un
oui,
peu
oui,
international.
Oui, là, ils ont gagné. Là, les Ivoiriens ont vraiment gagné. Ça, ils ont vraiment placé la barre haute et il est difficile, même à Paris, par exemple.
Bon, maintenant qu'on a parlé du terme,
oui.
De la banane brute,
oui.
Quand on fait justement ces alocos, quand on fait ces mistolets-là,
oui.
Comment est-ce qu'on choisit la banane? Explique-nous, toi, comment tu fais?
Moi, sincèrement, je préfère vraiment quand c'est al dente, quand on définit les pâtes, par exemple.
Ouais.
Je ne voudrais pas que ça soit trop mûr.
D'accord.
Donc, quand je choisis, moi, ma banane plantain, je la prends vraiment jeune, jaune.
D'accord.
Tout de suite.
Est-ce qu'elle a déjà commencé un peu à se ramollir, un peu?
Oui.
Elle reste encore un peu ferme.
Elle reste un peu ferme.
D'accord.
Pour moi, c'est important parce que quand je l'imprègne dans l'huile, je ne vais pas avoir un aloco mou, très imbibé d'huile. Voilà.
Moi, j'avais essayé à l'huile de coco.
Voilà. Oui.
Le rendu n'était pas top. Est-ce que tu peux nous parler d'autres manières de cuisiner donc, la banane plantain?
Oui.
Est-ce que toi, tu as un plat particulièrement que tu affectionnes à base de banane plantain autre qu'en aloco?
Oui. Bon, moi, par exemple, ma grand-mère, surtout, même ma mère aussi, elle faisait pas beaucoup la cuisine, mais... Ma grand-mère aimait faire la cuisine. Et donc, elle nous faisait une spécialité camerounaise qu'on appelait le moutouba.
Le moutouba.
C'est, ouais, le moutouba. Le moutouba, c'est la loco pilée.
Donc, attends, pilée. Tu la frites?
Non, tu la frites pas.
Tu la frites pas?
Non, elle est bouillie.
D'accord.
Et puis, tu la piles.
D'accord.
Et puis, tu fais des petites boules. C'est comme d'autres en Afrique diront, c'est un foufou.
C'est
de,
un foufou.
Oui, c'est un foufou de
banane,
de plantain et tout ça. Avec une sauce.
C'est un accompagnement.
Non,
hein,
c'est un accompagnement.
Ça se mange aussi avec de la viande,
oui,
avec du poulet.
Oui,
ouais,
avec des plats en sauce,
ouais.
Tu vois, avec
d'accord.
Des petits ragoûts et
okay.
Tout ça. Bon, le porc épique.
Le porc
épique. Voilà. Et c'est délicieux quand même. Hein. C'est très, très, très bon, et donc c'est voilà.
Ce que j'ai pas dit en introduction, c'est que ça fait à peu près 2 décennies que toi tu voyages très régulièrement en Afrique pour ton travail.
Oui.
Et
oui, c'est vrai.
Et que finalement le continent africain n'a plus beaucoup de secrets pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est venu t'interroger sur la banane plantain.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'être surpris par la banane plantain, surpris d'une manière de cuisiner cette banane?
Mais moi je crois que c'était au Burundi,
ouais.
Oui, où j'ai vu comment cuisiner la banane avec des feuilles de bananier.
Donc tu ouvres ta banane,
oui.
Tu la prends crue, tu
oui.
La renfermes dans des feuilles de bananier et là
tout.
Tu la fais cuire.
Voilà, ça cuit à l'étouffée.
D'accord.
Vraiment, soit dans souvent même dans certains pays aussi, on creuse le sol, on met des petites braises et
ouais.
Tout, on ferme ta banane et tout ça, là, ça cuit et tout, et ça te donne... Avec... Ils ont leurs ingrédients, hein,
oui.
Ils savent quoi mettre dedans, leurs produits, leurs...
Bon,
tu vois, au Cameroun, on dit les BCC, les tout, enfin, ce sont des petits... des ingrédients qu'on met pour rendre magique les ingrédients, les condiments, comme tu dis, pour rendre magique le plat. Et après, c'est surprenant par la qualité tellement c'est fin, c'est bon, c'est délicieux.
Bon, très bien. Est-ce que tu peux nous parler d'un plat que tu affectionnes particulièrement et que tu voudrais faire connaître, qu'on ne connaît pas nécessairement, mais que tu voudrais faire connaître à ceux qui nous écoutent aujourd'hui?
Ben oui, parce que bon, là, tout à l'heure, j'ai vraiment parlé beaucoup du Cameroun, mais tu sais bien que je ne suis pas que Camerounais, je n'ai pas que des ascendances camerounaises, j'ai aussi un peu du sang sénégalais qui coule en moi. Il y a un plat qui est très très bon et qu'on aime beaucoup au Sénégal. C'est le soupe kanja.
Alors, je vais essayer de le redire. Soupe kanja.
C'est très bien.
Merci. Tu l'as dit
Et c'est fait à base de gombo. C'est fait à base de gombo. Il y a de la viande. Il y a aussi des fruits de mer. À l'intérieur, on peut mettre un peu de gage pour donner un peu de
c'est
goût.
C'est quoi ça, le gage?
C'est un mollusque, un fruit de mer et d'accord. Tout ça. Et qui donne un peu de goût. C'est un peu une déclinaison des sauces gombo qu'on fait un peu partout, aussi en Afrique centrale, par exemple, au Cameroun, ou bien en Congo RDC, au Congo Brazza et tout ça. Et c'est très, très bon. Et quand on mange le soupe kanja, on peut dormir tranquille et repus. Voilà, c'est pour ça que c'est un plat que j'adore. J'aime beaucoup le tchéboudjin et tout ça. J'apprécie aussi le mafé, mais le soupe kanja, ça, voilà, c'est bien. Et quand tu iras au Sénégal la prochaine fois, demande un soupe kanja.
Bon, comme ça, que tous ceux qui nous écoutent, la prochaine fois qu'ils vont au Sénégal, puissent demander un soupe kanja. Mais
absolument.
Si on consacre un épisode de Ciselé au soupe kanja, on reviendra te voir, Bachir.
Mais avec plaisir.
Merci beaucoup, Bachir.
Rien.
Nous continuons d'explorer la banane plantain avec un jeune chef talentueux, créatif, instinctif, à la cuisine sincère et franche. À seulement 29 ans, Élise Bond est un chef ambitieux, animé par une volonté claire, celle de mettre à l'honneur les produits des 54 pays d'Afrique dans leur diversité et leur richesse. Fidèle à la promesse de Mikwabo, qui veut dire « soyez les bienvenus », en Fong B, et qui est le nom que porte le restaurant qu'il a ouvert il y a un peu plus d'un an avec sa femme Vanessa, il nous ouvre les portes de sa cuisine. Élise, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec la banane plantain?
Là justement, là, je vais prendre la banane plantain, là, je ne vais pas le faire comme les alocos. Je vais le couper en tronçons, parce que j'aime bien avoir une banane qui est vraiment très charnue. Et en gros, pour le visuel, avoir un tronçon de banane qui est assez intéressant.
Okay.
Je vais le faire frire, premièrement avec le sel que je rajoute.
Donc là, vous avez mis du sel de Guérande sur un bout de banane,
Exactement.
La banane, vous l'avez plutôt jaune.
Ouais.
Elle tire pas vers le noir là, elle est plutôt ferme quoi.
Elle est plutôt ferme et elle a tendance à être dure. Moi, ce que je fais, c'est que je l'amasse et en gros, ça fait en gros que la chair devient plus tendre quand on va la cuire. Ça frit et je vais retirer, et après je vais faire vite fait passer à la poêle avec un peu d'huile de palme.
D'accord. Donc là, vous avez utilisé de l'huile de tournesol.
Voilà, c'est ça.
Ok, d'accord. Donc, je crois qu'on entend bien l'huile frire.
Exactement.
Et la banane qui commence un peu à se colorer.
On le sent même en l'odeur.
Exactement.
Je vais faire passer vite fait à l'huile
de palme. Alors l'huile de palme, on fustige souvent l'huile de palme, mais l'huile de palme rouge, tant que c'est utilisé avec modération, il n'y a absolument aucun problème.
Et il faut savoir que l'huile de palme, quand on cuisine avec, c'est aussi bon. Et qu'est-ce que j'aime bien avec l'huile de palme? C'est quand on le chauffe, il y a ce côté piquant qui sort. Le côté piquant, il y a une petite épice qui est dedans. C'est pas une simple huile. C'est une huile qui va rajouter du goût et des saveurs, en gros, à le produit. Ça, c'est une batavia que j'ai mis à cuire avec l'huile de palme.
Ouais, vous l'avez pas dit, je venais d'huile de palme.
Il va accompagner la banane. On va prendre la banane comme si c'était une viande, une pièce de viande. Et en gros, il y aurait des condiments qui seraient là pour l'accompagner, pour lui donner un peu plus de valeur.
Ok. Et donc là, vous allez passer et la banane et la batavia au four.
Ouais.
Alors là, vous avez fait quoi?
Là, c'est des oignons que j'ai fait vite fait au cire. Avec une épice, en gros, qu'on peut trouver...
Ça sent bon.
Merci. Avec une épice qu'on peut trouver à Cameroun. Et moi, je trouve ça assez intéressant niveau saveur.
Ouais.
Et même niveau couleur, pour teinter, ça, ouais, ça teinte bien.
C'est un côté un peu gris vert, comme ça.
Là, vous allez me dire ce que j'ai en train de faire. Là.
Ouais, je comprends pas bien.
Justement, là, en fait, c'est un fer que j'ai récupéré en gros dans un vide-grenier.
Ouais.
Et moi, je trouve ça très intéressant parce que je me rappelle quand j'étais en Guyane, ma mère, elle avait la même.
D'accord.
Avant, on utilisait ça pour repasser les vêtements. On mettait un peu de charbon.
Ouais.
Et voilà, on repassait avec. Là, je me suis dit, c'est un bon outil en gros pour mettre à fumer ma banane.
Et ça, cette recette, elle vous vient d'où? Comment vous l'avez créée?
Comment je l'ai créée? Bon, c'est au feeling. C'est toujours au feeling. Hein. J'ai de l'oignon, j'ai un peu d'arachide qui est là, j'ai de la banane. Donc, je préfère toujours faire à l'inspiration et surtout à l'instinct.
D'accord.
Ouais, j'essaye d'avoir au moins des produits qui viennent un peu de partout,
ouais,
dans le continent, en gros, pour vraiment avoir une vraie personnalité et voilà, la recherche surtout. La recherche surtout.
On entend la flamme.
Et après.
Et donc là, votre banane enfermée dans votre fer, vous êtes en train de la.
C'est ça.
La fumer au chalumeau avec le foin. Ah ouais, l'odeur qui s'en échappe là.
Ouais.
L'odeur de foin.
On va le sortir. Pour finir, on met de la poudre cancan.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une poudre pour viande.
Okay.
En gros, c'est une épice. En gros, bah, ça c'est aussi pareil. Hein, c'est une épice qui vient de Cameroun.
D'accord.
Nos accompagnements pour la banane. Le chou, la batavia qui a été cuit à l'huile de palme.
Ouais.
Avec une mayonnaise de sumbara en dessous. Mmh. Là, on a une compotée en gros d'oignons avec un peu d'arachide dedans pour donner un peu de goût, un peu de saveur. Mmh. Et on a rajouté aussi du mbongo, c'est une épice assez noire qu'on retrouve au Cameroun. Mmh. Et là, la banane qui a été frite,
ouais,
et après légèrement rôtie avec l'huile de palme. Une petite mayonnaise de coriandre. J'ai mis aussi une épice cancan,
ouais,
une épice cancan qu'on utilise au Cameroun, qu'on utilise aussi au Bénin, même dans toute l'Afrique. On l'appelle soya, on fait aussi du tchatchanga avec, on fait du soya avec.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est un peu cet état d'esprit que j'ai voulu faire. Après, le côté où on a fumé la banane avec le fer passé à l'ancienne, qui va donner ce côté goût un peu fumé à ce repas.
Ça a l'air merveilleux. Merci beaucoup, Elise.
Merci à vous.
Après avoir découvert toute votre ingéniosité, on voudrait vous découvrir davantage. Est-ce que vous pourriez vous présenter, Elise?
Je me présente, je suis Elise Bond. Et j'ai 29 ans aujourd'hui. Et mon parcours, il est assez lent. J'ai eu des très grosses lacunes quand j'étais petit. Je suis venu en 2000 en France. On m'a séparé de ma mère pendant un an. Et à cause de ça, j'arrivais ni à lire ni à écrire jusqu'à la troisième.
D'accord.
Donc à cause de ça, j'étais complètement chamboulé. Et quand j'ai appris, j'ai eu ce déclic en gros, ma mère m'a dit tiens, prends un livre et tu me racontes une histoire chaque soir. Et c'est de là en gros que j'ai commencé à réellement apprendre à lire.
D'accord.
Et je suis sorti en troisième avec mon diplôme. Et après j'ai décidé de partir dans une école dessinateur d'exécution en communication graphique. Le
D'accord.
seul truc que je savais faire quand je ne savais pas lire, c'était de dessiner.
D'accord.
Donc de là, j'ai trouvé un patron, j'ai trouvé une école, mais c'était à 4 heures de chez moi. Ma mère m'a dit 9h. En gros, c'est pas possible. Trouve autre chose. Donc, je suis parti au CIO. Et le CIO, ils m'ont présenté en fait à une école. C'était une école de pâtisserie. Où en gros, il y avait un tableau. J'ai oublié c'est quel artiste. Mais en gros, c'était un tableau avec des fruits et légumes. Et je me suis dit, ah, mais c'est aussi de l'art. Ça veut dire, bon, en pâtisserie, c'est comme ça. Je vais partir aussi dedans. Bon, c'était pas vrai. Quand je suis tombé dedans.
C'était votre interprétation, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, je suis arrivé là-bas. J'ai fait mes 2 ans en pâtisserie. C'est un peu mal passé parce que pendant 2 ans, à éplucher des pommes de terre, à faire des sandwichs et à apprendre à peine la base d'un croissant. Donc, c'était pas fort. Donc, j'ai dû un peu apprendre à moi tout seul. Alors, j'ai pas pu valider mon diplôme parce qu'en gros, j'avais plus de patron. C'est-à-dire, en gros, ils ont changé de gérance. À la fin d'année, à un mois de l'examen, on me dit non, il faut trouver un autre patron. Donc, voilà, j'étais dégoûté après de l'école. Je suis parti après dans un restaurant qui s'appelait Maxi Camille.
D'accord.
Qui était un franco-mexicain. Et ce restaurant-là, j'ai travaillé pendant 6 mois en tant que commis. Et en gros, après ces 6 mois, il m'a fait passer responsable traiteur parce qu'il a vu que j'avais quand même ce côté, en gros, qui veut vraiment faire évoluer la boîte. De là, en gros, j'ai décidé d'arrêter.
D'accord.
J'ai arrêté et je me suis dit, je vais partir à l'école militaire pour me forger mon caractère, sortir un peu de mon cocon où j'étais avec les jeunes de la cité, où on faisait un peu tout, n'importe quoi, on partait, voilà. J'ai voulu sortir de ça et trouver, en fait, où était réellement ma place. Mm-hmm. Et je suis parti à l'école militaire pour être commando parachutiste. Et de là, j'ai fait quand même une belle année là-bas. En gros, à me lever tous les matins à 5h, des fois 4h. En fait, c'était compliqué au début, mais après, au fur et à mesure du temps, on a compris. Et de là, c'était vraiment cool.
Okay.
Et après ça, j'ai fini ma première année. Parce que voilà, on n'a pas continué. À la fin de l'école militaire, je suis rentré chez moi et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Et vu qu'il y avait les jeunes en bas, ils disaient, ouais, et quand t'es parti, il y a des trucs, choses qui ont changé. Les grands, ils ont ouvert des kebabs et tout. Mm-hmm. Non, en plus, ils se font grave de l'argent dedans. Après, je fais, ah ouais? Non, ils font de l'argent et tout. Après, il faut, ouais, mais de toute façon, nous, on peut pas. Ça, c'est un truc de grand, ça, tu vois. et moi, je regarde le truc et je me dis, je me mets à réfléchir. Je me dis, mais si eux, ils ont ouvert, pourquoi pas moi? Et de là, je me suis enfermé dans ma chambre à travailler sur des concepts de restaurant et à me dire que j'ai ouvert mon restaurant dans 3 mois. Et là, ma mère et mon père, mon frère et soeur, ils disaient, ouais, mais qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Tu sors pas, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit, ouais, je travaille sur un truc, j'ai ouvert mon restaurant. Eux, ils se foutaient de moi, en fait. Et ouais, lui, il est complètement luné. Il sort de l'école militaire, il sort de l'armée. Et maintenant, il dit, il va ouvrir son restaurant. Mm-hmm. Ouais, ok, d'accord. Et de là, quand j'ai commencé à travailler dessus, arrivé au deuxième mois, là, ma démarche, c'était de partir voir des locaux. Et j'ai eu un coup de cœur, entre guillemets, sur un restaurant qui était à rue Charenton, pas trop loin de Bastille.
Ouais.
Et le truc, c'est que l'endroit était propre, il n'y avait pas de travaux à faire, donc c'est ça le coup de cœur.
Parfait.
Donc on s'est dit, oh, c'est top et tout. La personne, elle m'a vendu un peu de rêve. Ouais, en gros, là, il y a du monde qui vient tout le temps, tout ça. Et moi, comme je disais auparavant, j'étais jeune, j'avais cette fougue. Mais j'avais pas réfléchi en gros que les gens aussi des fois ils peuvent sortir des mythos. Et j'avais le choix entre celui-ci et un autre où il y avait beaucoup de travaux à faire.
Ouais.
Donc je me suis dit bon j'ai pas envie de faire tout ça de travaux, c'est compliqué, je prends l'autre. Et finalement j'ai pris ce restaurant, on est resté 1 an là-dedans.
Ouais.
Un an, pourquoi? Normalement, on devait rester plus longtemps. Mais
là, le concept du restaurant, c'était quoi?
Le concept, c'était un restaurant autour des Antilles.
D'accord.
En gros, c'était des plats antillais, traditionnels.
Vous êtes originaire d'Haïti, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Mes parents sont haïtiens. Moi, je suis né en Guyane.
Voilà, c'est ça.
Et après, je suis venu en France en 2000. Là, c'était des plats assez généreux. Il y avait des moquites, il y avait des acras, il y avait des viandes boucanées, tout ça. Et c'était top. Et la clientèle au début c'était dur parce qu'en gros on m'a dit qu'il y avait du monde, finalement il n'y avait personne. Le propriétaire en fait il montait le loyer chaque mois.
Ah.
Et donc je me suis renseigné et après j'ai vu qu'en gros le contrat était complètement faux. Donc voilà, et c'est là que j' ai rencontré Vanessa. Là ça fait 7 ans qu'on travaille sur ce projet.
D'accord.
En gros, d'ouvrir un restaurant qui est autour des 54 états d'Afrique et des îles d'outre-mer.
Mm-hmm.
Parce que j'avais rencontré, je sais pas si vous connaissez, Jovey Malanga.
Bien sûr.
Donc, quand j'ai ouvert mon restaurant, il venait tout juste de sortir d'Objectif ou de Top Chef.
Top Chef, ouais.
Voilà. Et donc on a eu ce feeling de parler tranquille ensemble. On a tous les deux le même âge. Donc on a commencé à bien discuter. Et lui aussi, sa démarche, c'était vraiment de mettre en valeur ses produits, en fait, l'Afrique. Donc on a fait plusieurs prestations ensemble. Au fur et à mesure du temps. Donc moi, je me suis dit, bah, j'ai aussi essayer de défendre aussi, être avec lui pour défendre un peu cette, ouais, cette cause. Parce que j'ai fait ce constat, parce que lui, après, je lui ai demandé, est-ce que tu comptes installer un restaurant à Paris? Lui, c'était pas son objectif. Ouais. Lui, c'était plus pour partir après, en Afrique, pour vraiment développer tout ça. Donc, je me suis dit, bon, vu qu'il n'y a personne sur Paris, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais essayer de trouver, est-ce qu'il y a des restaurants, est-ce qu'il y en a qui le font? Et il y a plein de restaurants, là, j'ai regardé, il y a plein de restaurants type cuisine d'Afrique,
ouais,
mais qui n'a pas ce côté de restaurant où en gros on casse les codes, ouais, où on montre le produit, où on montre en fait le produit qui vient d'un pays, mais pas de l'Afrique en tant qu'elle, parce que les gens ils parlent souvent d'Afrique comme si c'était un pays, mais c'est un continent. Et ils oublient cette notion de continent, parce qu'il y a quand même 54 États en Afrique, et 54 États d'Afrique, c'est des pays. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois quand je prends mes ingrédients, je parle à des convives, je leur dis ce produit-là, il vient de Cameroun, ce produit-là, il vient du Ghana. Après, si c'est un truc qui est bien plus travaillé, comme le Mitumba, c'est un produit qui vient du Cameroun, mais aussi c'est les tribus des Bassa qui font. Donc voilà, mettre un point dessus, parce que les gens, ils ne connaissent pas. Et il faut les éduquer. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et comme la grande cuisine était venue avec les Paul Bocuse, etc., ils ont éduqué les palais de chaque personne qui venait manger. Parce qu'avant, ils mangeaient la viande complètement grise, complètement bien cuite. Et ils sont venus avec leur saumon à l'oseille qui est limite mi-cuit, en gros, intérieur. Et les gens, ils disent, mais attends, ils nous font manger du poisson cru. Que non. Là, je change. Et c'est ce qu'aujourd'hui que j'essaye de faire ici, à Paris. On a fait 7 ans à travailler dessus, 7 ans à courir après les banques. Les banques ne voulaient pas, parce qu'en gros, ils ne voyaient pas que un restaurant gastronomique à Paris fonctionne avec un level que je voulais, parce que le business plan il était quand même bien bien rodé, et limite pour eux il était trop bien fait pour qu'en gros que ça fonctionne.
Oui, vous étiez juste un rêveur, quoi.
Exactement. c'est ça, j'étais un gros rêveur, donc ils ont pas voulu me suivre et on a fait toutes les banques de Paris, c'est-à-dire toutes les enseignes, ouais, qui existent, même une enseigne portugaise qu'on a fait.
Ok.
Donc en gros voilà, on les a tous faites et rien. Donc on s'est dit on va ouvrir nous-mêmes, on a pris nos propres petits sous,
ouais,
on s'est dit voilà, c'est ouais, ça. Là comme vous voyez le restaurant comme il est, en gros c'était un kebab, mais vu que les banques nous ont pas suivis, donc j'ai dû tout faire tout seul.
Vous avez fait tous les travaux ici,
tous
là,
les travaux. On a dû tout, wow, j'ai dû casser tout ça, on a remis ça, on a mis l'étoile de verre derrière, on a fait la peinture. On s'est dit on va mettre tout notre amour dedans, et en espérant que les convives en gros le ressentent.
Bien sûr.
Parce que voilà, on n'a pas les finances pour faire, mais on va le faire. Et on est assez content parce qu'en gros, les produits qui viennent d'Afrique ou des îles d'outre-mer, il faut les mettre en valeur. Et après voilà, après je dis pas que c'est eux aussi peuvent le faire, tu vois, mais aussi à un moment donné, en tant que Renois, on doit savoir ce qu'on veut et on veut. Et ce qu'on veut, des fois, c'est de faire évoluer le continent.
Vous avez décidé de faire selon les saisons, selon vos inspirations. Justement, quand on est face à un public pas initié, pourquoi vouloir absolument prendre le parti de surprendre, quoi.
La plupart des produits qu'on a ici, qui viennent aussi dans certains pays qui est en Afrique, dans ce continent-là, c'est que... c'est pas tous les jours qu'ils ont ça.
Ouais.
Et à un moment donné, nous, des fois, en tant que... Que personne qui vit en France, on a l'impression qu'en fait tous les jours en fait il y a des bananes qui poussent dans les arbres, il y a des ananas, il y a des avocats, en fait c'est comme ça en fait,
ouais.
Et moi j'ai envie de casser ces codes là, c'est que tu vas pas venir manger un mafé que t'as déjà mangé quelque part, parce que si tu as envie de manger le même mafé il y a d'autres restaurants, ouais. Donc ici c'est tu vas venir manger un plat, en plus c'est même pas un plat, on est sur sur à peu près 7 plats,
ouais,
en gros qui s'enchaînent. On va décliner l'arachide, on va montrer les différentes parties de l'arachide. Il est en sauce, il est en grain, il est en poudre. Et la manière qu'on va le travailler, c'est qu'il y a des textures, il y a des goûts qui vont venir en fait, qui va chercher ces produits comme le Mitumba, le Mbongo. Le Mbongo, c'est une poudre noire.
D'accord.
Qui vient en gros du Cameroun, ouais, si je dis pas de bêtises. C'est une écorce d'arbre qui brûle et après qui font une sauce avec. Et cette sauce-là, ça, c'est une odeur, pas que fumée, mais il y a une odeur un peu citronnée derrière.
Okay.
Et en gros, c'est juste une écorce d'arbre.
D'accord.
Et ça se mélange très très bien avec un champignon.
Okay.
On l'a fait avec des cèpes et un autre produit qui s'appelle Mitumba. Le Mitumba, c'est une racine de manioc fermentée, puis fumée, et en gros qui a un goût un peu de charcuterie, de fromage, quoi. Donc, c'est fou, c'est juste un manioc. quoi.
Et quels sont les retours que vous avez eu de votre clientèle, justement, et j'ai envie de dire de votre clientèle parisienne?
Quel retour? Mais justement, en gros, assez surpris.
Ouais.
Je me rappelle, bon, il y a lui, j'avais un client qui est venu, il passe comme ça, il regarde le menu, il ouvre la porte, il me dit, mais vous trouvez pas que vous êtes assez cher? Et mais ça le regarde, en gros c'était l'un des premiers clients qui venait. Mm-hmm. Et il rentre comme ça, il dépose son manteau genre en gros. Et nous on le regarde en limite, il est complètement fou ce mec. Il mange, il finit de manger, en gros il paye et il part. En gros nous ce qu'on a compris c'est que, ok, on a fermé sa bouche déjà pour commencer. Toutes les personnes qui venaient, en gros, qui n'ont pas forcément l'habitude de ce côté en gros très épicé, parce que moi, quand un plat doit être piquant, il est piquant. Ouais. Quand il doit être amer, il doit être amer.
D'accord.
Donc je vais pas essayer de camoufler de camoufler les plats pour en fait
vous les plaire. Adapter, voilà, c'est à ça. Des palais. Oui.
Voilà, exactement. Okay. Donc comme
vous y allez franchement.
C'est ça. Voilà. Si on fait quelque chose, soit on le fait, soit on le fait pas. Moi, c'était un chef que j'avais vu en gros à le jour de ma dotation Goemio. C'était Alain Ducasse. Il a fait. C'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu, le projet que tu me parles. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est si ton plat doit piquer, il pique. S'il doit être amer, il doit être amer. Va pas là où tu as papier.
Là, c'est Alain Ducasse qui vous dit ça.
C'est ça, exactement.
Okay.
Donc, je me dis, c'est intéressant ce qu'il dit. Parce qu'en vrai de vrai, c'est des fois, on a envie de plaire. Donc, on va aller mettre pied là où on n'a pas pied. Mm-hmm. Et c'est pas ça. Donc la vraie nature que je dois donner, par exemple dans ma cuisine, c'est celle que moi j'ai l'habitude de faire et celle que je veux réellement que ces personnes puissent avoir.
Et, bon, j'avais la question de savoir si vous vous censuriez, mais de ce que je comprends, vous y allez franchement, vous avez peur de rien,
non.
En tout cas pratiquement rien. Vous êtes prêt à proposer une chikwang qui sent fort?
Ah mais ça je le propose.
Vous proposez la chikwang? La
chikwang, je l'ai proposé, le plat. Je l'ai appelé le manioc en trois façons.
Qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que la chikwang, évidemment. La chikwang, c'est du manioc qui
c'est
a
ça.
Été retravaillé en pâte.
Exactement.
Et finalement fermé dans des feuilles
c'est
de bananier.
C'est ça, exactement.
Et quand on ouvre ces feuilles-là, il y a, y a une odeur que je ne saurais qualifier.
C'est ça.
Qui est très particulière.
Exactement. Moi, j'essaye pas de camoufler cette odeur.
Ouais.
Donc après, qu'est-ce que je fais? C'est que après, je le fais vite fait passer à la poêle avec un peu de piment que je fais là.
D'accord.
Piment, gingembre, paf, je le fais et après je balance dans le plat et ça fait qu'il y a le côté qui est pimenté subtilement et tous les trucs qu'on a peut-être peur, c'est ceux-là qu'ils aiment.
Ouais,
et c'est pour
d'accord.
ça que je me suis dit aujourd'hui si on a des plats en gros à proposer, il faut pas avoir peur
vous
de
avez
le proposer
peur, ouais, vous avez pas
donc
peur.
Il faut le faire, il faut les montrer et c'est pour ça qu'à la fin de chaque service quand on a fini en gros le dessert, c'est que je pars vers les convives avec un gros plateau où il y a tous les ingrédients, tous les produits mais bruts qu'ils ont mangés.
S'il
y a un vieux poisson qui a pas une belle tête, parce que des fois on a des poissons fumés là, qu'ils ont une tête assez bizarre, donc je les montre et je les fais sentir. Je les dis voilà c'est ça, le sumbaras pareil, et c'est ça que j'essaye de faire réellement dans le restaurant, c'est de sensibiliser. Moi c'est ça, on veut vraiment respecter les saisonnalités. Respecter les petits producteurs, en gros, pourquoi ils se battent.
Mm-hmm.
Et parce que les petits producteurs, ils respectent quand même la saisonnalité comparé aux gros.
Et pour terminer, dernière question, est-ce que vous avez prochainement un challenge ou un défi, un produit très particulier que vous avez envie d'introduire dans votre carte dès que le restaurant va pouvoir réouvrir?
Là, pour le moment, pas forcément. J'ai pas forcément de challenge pour la réouverture. Là, on est en train de retravailler notre menu.
D'accord.
On va plus la mettre encore plus en valeur. C'est-à-dire, il y aura plus de mets, une découverte encore plus large et les faire voyager au travers de tous ces produits.
Super. Merci beaucoup, Elise.
Merci à vous.
Nous voici arrivés au terme de ce premier épisode de Ciselé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le produire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de Ciselé autour de vous et à laisser notes et commentaires dithyrambiques sur Apple Podcast. Vous pouvez également retrouver Ciselé sur votre plateforme de streaming préférée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, on se donne rendez-vous sur notre site internet Ciselé sans accent sur le dernier E. www.bananeenfermée.fr et sur Instagram. À très vite.